Geneviève Labrec, je vous ai vu rire de moi.
J'ai eu beaucoup de difficultés à prendre ce mot également.
Donc, on va le redire, chromosomique, parce exact. Que la trisomie 21, ça touche un chromosome, c'est bien ça?
Exactement, le 21e chromosome, la 21e paire, en fait.
Est-ce que c'est parce qu'il y en a un de trop? Qu'est-ce qui arrive avec la 21e paire?
C'est justement ça, c'est qu'il y en a trois qui arrivent au lieu d'en avoir deux. Sur le chromosome 21, on a trois, au lieu d'avoir seulement qu'une paire, on a trois chromosomes.
OK. Et en quoi ça affecte la santé de l'enfant ou son développement?
En fait, la trisomie 21 va se refléter surtout pour une déficience physique et aussi une déficience intellectuelle. Dans la déficience physique, on va avoir des enfants qui ont des problèmes musculaires, qui vont être un peu plus mous musculairement. On appelle ça de l'hypotonie musculaire. Ils vont avoir aussi des traits caractéristiques physiques, donc des yeux plus petits, un peu bridés, une tête plus petite, les oreilles plus basses, un nez aplati. Donc, ils ont des petites caractéristiques physiques qui font qu'on les reconnaît plus facilement. Mm-hmm. Pour ce qui est de la déficience intellectuelle, en général, c'est une déficience intellectuelle qui est considérée comme légère à moyenne. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des enfants qui vont avoir la déficience intellectuelle plus très, très léger, puis il y en a qui ça va être plus important.
OK. Il y a quand même quelque chose d'assez fascinant avec la trisomie 21, c'est tous les apports, en fait, qui ont été obtenus dans les dernières années. Là. Je lisais, entre autres choses, que l'espérance de vie des personnes trisomiques, ça a fait un grand, grand bond,
exact.
Assez fantastique. C'est, en 1930, c'était 9 ans. Maintenant, 2055 ans à peu près. Est-ce que oui. Ça a bougé encore dans les 15 dernières années?
Ça va toujours continuer à augmenter à cause de la recherche médicale, entre autres. Souvent, les personnes qui ont une trisomie 21, une des statistiques qu'on remarque, c'est qu'un sur deux a des problèmes cardiaques. Mais la médecine a fait des énormes progrès au niveau des opérations à cœur ouvert, entre autres. Donc, les taux d'espérance de vie ont augmenté beaucoup grâce à la recherche médicale mm-hmm. qui a contribué beaucoup à augmenter les espérances de vie des jeunes.
Parce que les gens qui naissent avec la trisomie 21 ont d'autres maladies qui sont liées, c'est ça?
En général, ce n'est pas toutes les maladies qu'ils peuvent avoir. Mm.
Parle en général.
En général, oui. C'est ça.
Je sais que c'est important pour vous de ne pas spécifier que chaque enfant, que ça arrive dans chaque famille, c'est du cas par cas.
Exact.
Oui.
Souvent, la plupart ont un sur deux en fait des problèmes de cardiaque, mais ça peut être une petite anomalie qui va nécessiter aucune chirurgie à des opérations à cœur ouvert. Ils ont plus de risques d'avoir des infections pulmonaires. Plus de risques aussi d'avoir, par exemple, des otites, parce qu'en ayant les oreilles plus petites, le canal est plus petit, donc il va se bloquer mm-hmm. plus facilement. Il y a des problèmes qui s'expliquent à cause de leur malformation. La plupart ont des problèmes aussi de pieds qui sont plats, donc ça prend des orthèses. C'est toutes des petites caractéristiques, mais effectivement, ils ont plus de problèmes de santé que la mm-hmm. moyenne des gens.
Mais grâce aux recherches médicales, oui. on a pu mettre en place des soins, des traitements pour remédier à ça.
Exact.
Et c'est ce qui fait que l'espérance de vie est sans cesse en augmentation. Il n'y aurait pas aussi le fait que notre société ait fait le choix, ait en fait souhaité là, mm-hmm. d'inclure de plus en plus les personnes trisomiques?
C'est certain que quand on vit dans notre famille naturel, on suit notre famille, donc on développe des aptitudes qui ressemblent beaucoup à notre famille. Ça l'aide beaucoup. Quand on était élevé, par exemple, il y a une trentaine d'années, c'était surtout des religieuses qui s'occupaient des personnes qui avaient une trisomie 21. Il y avait moins de temps à accorder quand il y avait plusieurs personnes. Là, dans nos familles, souvent, il y a deux, trois enfants. La maman, le papa sont plus présents, puis ils mm-hmm. s'occupent plus de la santé de leurs enfants. Et il y a les soins médicaux qui sont accessibles aussi. Là. La plupart des familles ont des pédiatres qui les suivent régulièrement. Et la recherche aussi en trisomie a démontré certains examens à faire de façon régulière, par exemple des prises de sang pour la glande thyroïde. Mmh. Souvent, ils ont des problèmes de glande thyroïde, mais si on les fait chaque année, on peut facilement prendre la médication et pas avoir de problèmes qui en découlent. Donc, tout ce qui est les suivis médicaux sont plus serrés, ça l'aide beaucoup. Mmh.
Donc, c'est une plus grande connaissance aussi de la trisomie 21. Ça a été découvert quand? C'est une bonne question,
C'est une bonne question. Rapidement, comme ça, je suis un peu... En fait, c'est le docteur
Downs
qui a découvert ça il y a quelques années déjà. Mm. En fait, ça fait plusieurs... Il y a toujours eu des personnes qui avaient la trisomie 21, mais c'est le premier à le décrire, à voir les caractéristiques physiques des personnes et de bien les documenter.
Mm-hmm. Est-ce que, justement, point de vue diagnostique, c'est de plus en plus facile de le faire chez les futures mamans?
En fait, avec le dépistage prénatal, maintenant, on a accès plus facilement au test prénatal. Donc, avec une prise de sang, on peut établir la probabilité que l'enfant ait la trisomie 21. Mais pour être sûr à 100 %, il y a seulement l'amniocentèse qui est pratiquée autour de la 16e semaine qui peut nous garantir un résultat fiable. Mm-hmm. Les prises de sang, ce n'est que des probabilités. Mais en même temps, ce n'est pas toutes les familles qui décident de faire le test de sang ou de faire l'amniocentèse qui veulent passer à travers ce cheminement-là, ces réflexions-là de couple. Il y a des familles qui, ça fait tellement longtemps, qui veulent avoir des enfants, qui vont prendre l'enfant qu'ils vont avoir, donc,
mm-hmm.
ou qui vont poursuivre la grossesse aussi parce que c'est pas pour eux, ils veulent conserver l'enfant.
Oui, puis en même temps, ce sont d'excellentes questions à se poser avant de faire ces choix-là, parce que c'est de vivre avec une probabilité. Vous avez une chance sur X d'avoir un enfant qui a la trisomie. Qu'est-ce que vous faites? Mais encore là, l'enfant peut naître d'une façon différente. Là.
Oui, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Là. C'est pas fiable à 100 %.
Je sais que pour vous, c'est une question un petit peu délicate, mais je m'intéresse à l'hérédité,
oui.
Ce qui fait qu'une femme met au monde un enfant trisomique.
Donc, la trisomie 21, comme je disais tout à l'heure, c'est un état. On est comme ça.
Mm-hmm.
La femme arrive à la naissance avec tous ses ovules. Donc, elle a déjà tout son bagage. Et en vieillissant, nos ovules sont de moins en moins, je vous dirais, performantes ou parfaites.
Ouais.
Donc, on a plus de chances d'avoir des ovules qui ont la trisomie 21, qui ont deux chromosomes au lieu d'en avoir un. Il existe trois sortes de trisomie 21. Il y a la première, qui est la plus fréquente, qui est la trisomie libre. Qui est à 95 % des personnes que vous croisez, c'est cette sorte okay. de trisomie-là qu'ils ont. C'est lors de la première rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, c'est là qu'on voit la trisomie 21. La deuxième sorte, c'est la trisomie mosaïque. Et cette trisomie-là arrive lors de la deuxième division cellulaire. Donc, les médecins, les chercheurs ne savent pas pourquoi, mais lors de la deuxième division cellulaire, la moitié des cellules ont la trisomie 21 et l'autre ne l'a pas.
Okay.
Donc, ça fait des personnes qui ont une trisomie, qui ont certains traits, mais pas nécessairement tout, et qui ont une déficience intellectuelle la plupart du temps plus légère. Ils peuvent aussi passer plus facilement, on les remarque moins, on dit « Ah, il y a des traits ». Et il y a la trisomie aussi qui s'appelle par translocation, qui, elle, c'est un des deux parents qui a déjà un chromosome 21 qui est dysfonctionnel dans son sang.
Et qui ne le sait pas nécessairement.
Exactement, parce qu'il ne développe pas nécessairement la trisomie 21. Cette forme de trisomie-là est très rare, je vous dirais à peu près 2 % de toutes les personnes trisomiques.
OK. Et, bon, par rapport à l'hérédité, c'est différent selon chaque forme de trisomie. C'est bien ça, la trisomie 21?
En fait, l'hérédité, on pourrait dire que c'est la trisomie par translocation.
Voilà. Sinon, toutes les femmes sont sujettes à mettre...
Un enfant qui a la trisomie 21, quel que soit notre rang social, notre degré, si on est riche ou si on est pauvre, n'importe qui peut avoir un enfant qui a une trisomie 21 et dans n'importe quelle culture aussi.
Ouais. OK. Donc, vraiment, les taux sont les mêmes partout dans le monde.
Oui.
Bon, maintenant, vous êtes aussi maman.
Geneviève,
vous êtes maman d'un petit garçon qui a 10 ans, qui s'appelle Hubert et qui a la trisomie. Donc, vous connaissez cette réalité-là.
Très bien, oui.
Est-ce qu'il y a, quand on met au monde un enfant trisomique, est-ce qu'il y a de l'aide qui se manifeste? C'est-à-dire, est-ce que les hôpitaux proposent déjà des spécialistes pour nous aiguiller? Comment ça se passe?
En fait, de la façon dont ça se passe, en règle générale, les hôpitaux vont nous renseigner sur l'état de santé de l'enfant en ce moment-là, présentement.
Mm-hmm.
Ils vont nous diriger par la suite vers un CLSC, celui de notre région dans laquelle on est. Et là, à partir de ce moment-là, on doit communiquer avec le CLSC pour avoir un travailleur social qui va suivre la famille tout au long de la vie de l'enfant. Donc, le CLSC se trouve à être ce qu'on appelle les intervenants pivots. C'est mm-hmm. la personne qui va nous aider dans le réseau de la santé à nous organiser, si on veut. Il y a beaucoup de listes d'attente dans le réseau de la santé. Alors, les enfants qui ont une trisomie 21, ils sont aussi confrontés beaucoup. Et comme on disait tout à l'heure, ils ont souvent des problèmes de santé. Donc, ils sont confrontés, je vous dirais, un petit peu plus que la moyenne. Là, quand il faut aller voir un ORL ou un physiothérapeute, un ergothérapeute, on voit beaucoup plus de spécialistes qu'avec un enfant qui n'a pas la trisomie 21.
Mm-hmm. Et aussi du point de vue de l'accompagnement, parce que quand on a un enfant trisomique, j'imagine qu'on a envie de lui donner toutes les ressources tout de même nécessaires, de l'encadrer, de le stimuler aussi tout de même au maximum. Alors, on s'entoure de quel genre de spécialiste?
Alors, les enfants qui ont une trisomie 21, souvent, ils ont des problèmes de motricité globale. Ils ont besoin d'avoir un physiothérapeute qui va les aider à se développer, donc pour apprendre la marche. On parle mm-hmm. même du quatre pattes rampé. On parle de la base. Le physiothérapeute va nous donner des conseils par rapport à notre enfant. Ensuite, on peut avoir aussi besoin, dans certains cas, d'ergothérapie. C'est souvent pour la motricité fine, la prise du crayon. Les personnes qui ont une trisomie 21 ont des mains plus courtes et des
Vous
doigts
regardez
plus courts.
Mes mains.
Donc, pour prendre un crayon, prendre même une cuillère, ça peut être un petit peu difficile pour certains enfants. Puis il y en a d'autres, au contraire, ça va super bien. Mais on peut avoir besoin de conseils d'ergothérapeute. Et aussi pour l'orthophoniste. On a souvent besoin d'orthophoniste pour apprendre le langage. Parce que les personnes qui ont une trisomie 21 ont une bouche plus petite. Mm-hmm. Alors, la langue prend plus de place dans la bouche. Et pour bien parler, quand on a la langue dans les pattes, oui. entre guillemets, mm-hmm. c'est plus difficile. Donc, une orthophoniste, ça donne des bons conseils, puis ça l'aide. Et quand les familles sont confrontées aux listes d'attente, souvent, ce qu'ils font, ils vont se retourner dans le réseau communautaire pour voir qu'est-ce qui existe. Alors, dans ces moments-là, il y en a plusieurs qui nous trouvent. Et au regroupement, pour la trisomie 21, on offre des services pour les familles qui sont en attente. Donc, on a une ergothérapeute
ah,
qui
oui.
vient de rencontrer les familles, qui donne des conseils, des trucs. On a une physiothérapeute aussi. Et on a aussi une orthophoniste qui est là pour coacher les familles. Souvent, ça les aide.
Parce que ça, c'est sûr que c'est un enjeu encore,
oui.
tout le volet financier. Parce que, bon, on veut que l'enfant soit stimulé au maximum. Je lisais le témoignage d'une maman qui racontait que ce qui a aidé son fils énormément, son fils qui a maintenant 22 ans, c'est tout le suivi à la maison, le suivi scolaire.
Oui.
Un apport de plus, je dirais, quelqu'un qui venait à la maison X heures semaine de façon privée pour revoir les leçons, approfondir également. Et ça, ça a été vraiment un plus incroyable pour le développement de l'enfant, mais en même temps, un sacrifice point de vue budget familial.
C'est tout des choix de famille, en fait. Ça dépend comment les familles voient ça. Il y a des familles qui vont décider de mettre beaucoup d'emphase sur l'orthophonie pour que leur enfant puisse parler le mieux possible pour se faire comprendre dans la société. Parce que souvent, quand on parle bien, c'est plus facile d'avoir rentré en lien avec les gens. Donc, chaque famille choisit un peu. Et nous, on est là aussi en attendant au regroupement pour la trisomie 21 pour leur donner des pistes, des conseils, puis
ouais.
d'essayer de trouver des spécialistes à moindre coût. Par exemple, pour les orthophonistes, il y a des étudiantes en orthophonie qui font des cours et qui viennent à l'occasion chercher des jeunes pour avoir des personnes pour les aider à mieux comprendre leur métier. Donc, pendant ce temps-là, les familles ont accès à des rendez-vous à faible prix. Donc, on a plein de petits moyens comme ça. Mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de choix de famille qui se fait. Si je prends mon exemple personnel, nous, on a été en orthophonie en privé plusieurs fois pour essayer d'avoir des trucs. On retenait l'information, on le pratiquait à la maison, puis on y retourne un peu plus tard.
Mm-hmm.
Donc, ça nous a donné des conseils. Et c'est certain que dans le milieu scolaire, en ce moment, il y a aussi un manque de ressources pour les enfants qui n'ont pas d'handicap. Alors, ceux qui ont un handicap,
ah,
ils
n'ont
pas nécessairement plus de ressources. Donc, encore là, je comprends la mère d'avoir été dans le privé pour aller chercher un peu plus.
Mm-hmm. On a un préjugé parfois, je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais un préjugé favorable envers les enfants qui ont la trisomie, c'est qu'ils sont très sociables, ils ont beaucoup d'affection,
ouais.
ils vont facilement vers les gens. Est-ce que c'est vrai ça?
Je vous dirais qu'au quotidien, c'est pas toutes les personnes qui ont la trisomie 21. Par exemple, moi, mon fils, quand il avait un an, il avait peur des gens, là, au point où il en pleurait quand il voyait des gens. Donc, chaque enfant est différent.
Mm-hmm.
Ils ne sont pas tous sociables, ils ne sont pas toujours souriants et ils ne font pas toujours des crises, ils ne sont pas toujours en train de boquer. C'est sûr qu'ils ont une intelligence émotionnelle, je vous dirais, un peu plus élevée que la moyenne. C'est des personnes qui sont
Mm-hmm.
affectueuses, qui ont besoin de toucher pour bien sentir. C'est au niveau physique, ils ont besoin de toucher. Mais ils ne sont pas toujours parfaits, là. Comme n'importe qui.
Comme n'importe quel
exact.
Enfant, bien sûr. Geneviève, depuis 10 ans,
oui.
bon, bien sûr, 10 ans, c'est pas si long que ça, mais est-ce que vous avez vu changer le regard de la société, des individus sur les gens qui vivent avec la trisomie 21? Parce que j'ai l'impression qu'on les voit de plus en plus, ils ont des boulots, ils vont à l'école, et ça peut juste être
oui.
un bénéfice pour nous, pour la société. Est-ce qu'il y a encore un regard de préjugé envers ces enfants-là?
Je vous dirais que chez les jeunes qui ont côtoyé la différence, je pense entre autres à ceux qui ont été à l'école, puis maintenant ils ont une vingtaine d'années, puis qui ont été à l'école avec des personnes qui avaient la trisomie 21, pour eux, ça fait partie de la réalité de côtoyer la différence. J'ai une grande fille de 12 ans, j'ai un fils de 10 ans qui a la trisomie, et j'ai un autre petit bonhomme de 6 ans. Puis pour mes deux autres enfants, Hubert, là, il a toujours été là, il a toujours fait partie de la
Ouais.
famille. Et ma fille, quand voit des personnes qui ont une différence, quand elle était toute petite, elle ne remarquait pas la différence, mais elle remarquait que la jeune fille avait une bague, puis elle n'en avait pas. Donc, ça dépend beaucoup. Je vous dirais que d'informer les gens, de leur expliquer que ce n'est pas une maladie, que ça ne s'attend pas, la trisomie 21, puis de s'approcher, puis de leur parler, ça l'aide beaucoup. La société s'ouvre beaucoup sur la différence, beaucoup plus. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, par contre, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés qu'il faut faire tomber.
Avez-vous l'impression que votre réalité familiale, à vous et vos trois enfants, est différente? Bien, évidemment, elle est différente de celle des autres parce que chaque famille est différente, mais est-ce qu'il y a des embûches différentes?
Oui, c'est certain qu'il y a des petites différences. Quand mon fils a la trisomie, quand il est malade, il est plus malade que la moyenne. C'est toujours un petit peu plus lent parce que tout son développement est plus lent, même son étape de guérison est plus lente. Ça va, plus petit, il me demandait plus de temps que les deux autres enfants. Maintenant, je vous dirais qu'on dit à la blague qu'il a attrapé tous les rhumes, donc il est plus souvent malade, il est toujours en santé. Mais il a demandé plus de temps. Donc, pour une maman, c'est d'être capable de faire la part des choses et d'accorder aussi du temps de qualité aux autres enfants et de ne pas mettre de pression sur les autres enfants non plus parce qu'eux n'ont pas d'handicap.
Est-ce qu'Hubert fait du sport, Geneviève?
Oui, Hubert fait partie d'une équipe de course au regroupement pour la trisomie 21. On a une équipe de course, les Formules 21, qui s'entraîne tout l'été pour faire une course au Parc Maisonneuve. Il fait de la danse depuis qu'il a 4 ans dans une école de danse du quartier avec les autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Et il fait son spectacle à la fin de l'année devant 300 à 400 personnes, comme un seul homme.
Donc, il s'entendrait peut-être bien avec Anne, la fille de Lucie Charrette, qu'on va vous présenter à l'instant. Vous restez avec nous, Geneviève Labrec. Je rappelle, vous êtes directrice générale du regroupement pour la trisomie 21, trisomie.qc.ca, des conseils, des ressources, de l'encadrement pour les parents, pour les familles qui vivent avec un enfant qui a la trisomie 21. Votre site est superbe.
Merci.
Merci beaucoup d'être là. Merci de faire ce que vous faites. Et puis, on ne restait pas loin. On revient dans quelques instants.